is a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa wa maliwe.
Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Galère. Notre émission d'aujourd'hui, Livres Amis, sera animée par Françoise et Jacques. Cette émission d'aujourd'hui parlera d'un livre qui s'appelle Le Bloc Arc-en-Ciel, qui est paru en septembre 2021, donc il y a un an et demi, et qui a été écrit par une autrice qui s'appelle Aurélie Trouvé. Quelques mots sur Aurélie Trouvé pour la présenter. Aurélie Trouvé est une ingénieure agronome de l'école d'agronomie de Toulouse. Elle est docteur en sciences économiques et elle est maître de conférences à AgroParisTech, une grande école agronomique parisienne. Aurélie Trouvé a été également coprésidente de ATAC de 2016 à 2021. Alors, une petite parenthèse sur ATAC. ATAC est une association dont le sigle signifie Association pour la taxation des transactions financières et l'aide aux citoyens, et ATAC promeut l'objectif que les transactions financières soient taxées, très très légèrement d'ailleurs, afin de dégager des ressources financières qu'on pourrait utiliser pour le progrès social. C'est donc une association intermondialiste, et Aurélie Trouvé en a quitté la coprésidence pour devenir députée France Insoumise, la France Insoumise, de la 9e circonscription de Seine-Saint-Denis en 2022. On peut donc dire que Aurélie Trouvé appartient à ce qu'on appelle la gauche écologique. La thèse d'Aurélie Trouvé part du constat suivant. Dans notre monde actuel, on observe de nombreuses injustices économiques, sociales, écologiques, qui se marquent par la pauvreté, la précarité, des inégalités croissantes, la pollution de la nature, alors qu'en même temps, les profits des multinationales s'accroissent et les dividendes distribués s'accroissent également. D'où une colère populaire qui s'exprime sous des formes nombreuses et variées concernant l'écologie, les luttes antipatriarcales, les mouvements syndicaux, etc. Mais toutes ces formes sont dispersées et non réunies, non unies. En conséquence, rien ne s'améliore, au contraire, et Aurélie Trouvé soutient qu'il est temps de bifurquer complètement par rapport aux formes classiques de revendication. Et pour cela, elle s'inspire d'un exemple qui a eu lieu en 1969 à Chicago, où plusieurs petites organisations qui luttaient séparément contre la ségrégation raciale se sont unies en un bloc qu'ils ont appelé à Chicago la Rainbow Coalition. Rainbow, c'est l'arc-en-ciel en américain, et coalition, c'est le bloc, d'où ce nom de bloc arc-en-ciel. Ce bloc arc-en-ciel a donc réuni plusieurs petites organisations qui chacune travaillait dans leur coin auparavant, et Aurélie Trouvé soutient qu'il faut renouer avec cette stratégie arc-en-ciel selon deux axes: s'unir au-delà des différences et des intérêts immédiats de chacun et proposer des alternatives crédibles. Écoutons comment Aurélie Trouvé introduit cette problématique.
1969, Chicago. Fred Hampton, leader local des Black Panthers, fonde la Rainbow Coalition, une alliance entre son organisation, Mouvement de Libération des Noirs, la Young Lords Organization, sorte d'équivalent latino des Black Panthers, et la Young Patriots Organization, qui regroupe les migrants blancs et pauvres venus du sud des États-Unis. Dépassant les rixes qui pouvaient les opposer dans la rue et certains attributs nationalistes des Young Patriots, comme le drapeau confédéré, la coalition met en avant les intérêts communs face aux violences policières systématiques, à la ségrégation raciale et sociale brutale qui sévit dans la ville et aux inégalités d'accès aux services de base. Chacun de ces groupes a conscience que pour mener une révolution, il faut construire une alliance, c'est-à-dire consentir un effort politique visant à dépasser ces différences et à trouver des compromis permettant de coordonner le combat. Nous voulions former un front uni, résume un vétéran de ces batailles. Notre mission était l'autodétermination de nos quartiers et de toutes les nations opprimées. Il s'agissait de se préparer à une lutte des classes prolongée. Jeter les bases d'une alliance par-delà les différences d'intérêts immédiats impliquait une proposition politique. Fred Hampton fut celui qui la formula le plus clairement. Nous devons combattre le feu avec de l'eau. Nous devons combattre le racisme, non pas par le racisme, mais avec la solidarité. Nous devons combattre le capitalisme, non pas avec un capitalisme pour les Noirs, mais avec le socialisme.
Aurélie Trouvé, après cette présentation, résume et explique la situation actuelle en notant que le néolibéralisme actuel est en crise profonde.
Mais au XXIe siècle, le néolibéralisme agonise dans ses contradictions. Sur le front de la valorisation, le capital est incapable d'engendrer la prospérité promise. L'appétit féroce de rentabilité de la finance aux abois se mue ainsi en pulsion prédatrice. Les profits ne viennent plus de l'investissement ni de la production, mais du détricotage des droits sociaux, de l'intensification du travail, de la précarisation des revenus, de l'étranglement des sous-traitants et de la captation des ressources publiques. La grande idée du néolibéralisme, l'institution de la concurrence pure et parfaite, se fracasse contre les réalités économiques, de la finance zombie aux citadelles oligopolistiques, des spéculations incontrôlables aux géants du numérique, tout en haut de la pyramide économique, la concurrence n'est plus qu'un partage entre zones d'influence, une répartition des sources de rente qui irrigue le sommet de la hiérarchie sociale.
Donc, Aurélie Trouvé constate que le système se grippe, ne fonctionne plus, que la concurrence libre et parfaite aboutit à un combat de tous contre tous. Et quelle est la conséquence de ce dysfonctionnement? Eh bien, comme il est tout à fait général lorsque quelque chose ne va pas, il y a une montée des autoritarismes. Et c'est bien ce qu'on a vu en France. Aux élections présidentielles 2002, nous avons eu Le Pen au deuxième tour. Aux élections présidentielles de 2017, nous avons eu un autre Le Pen Marine au deuxième tour également, et nous espérons évidemment qu'en 2027, il en sera tout à fait autrement. Il faut donc, pour sortir de cette pente dangereuse, il faut remettre en cause les logiques profondes du capitalisme, il faut revoir nos modes de production et de consommation des marchandises et des services, éviter le gaspillage, être plus sobre, etc. Il s'agit donc, en un mot, de s'attaquer aux racines du système, aux racines qui sont cachées, qui sont enfouies, afin de pouvoir construire ensuite un monde d'après, un monde sans capitalisme, sans patriarcat, sans racisme, sans productivisme, afin de parvenir à l'émancipation de chacun et afin de parvenir, selon la formule du Conseil national de la résistance, à un monde peut-être utopique où chacun pourrait vivre des jours heureux. Alors, évidemment, cette utopie est séduisante, mais la question pratique est que faire et comment le faire ? Alors, petit retour en arrière, puisqu'on est trouvé sur les crèmes de la gauche écologique, voyons ce qu'a fait M. Hollande quand il était au pouvoir et constatons qu'il n'a pas pratiqué une politique de gauche, au contraire.
Celui qui s'était fait élire comme ennemi de la finance est resté son ami. Une loi bancaire édulcorée fut adoptée pour solde de tout compte de la grande débâcle financière de 2008. Parallèlement, en signant le pacte budgétaire européen, Hollande se rallie à la constitutionnalisation de l'austérité à travers la règle d'or budgétaire. En contraignant drastiquement les possibilités de déficit public, cette norme sacralisait la prééminence des marchés financiers par rapport aux demandes populaires de dépenses publiques. François Hollande fut aussi le serviteur du grand patronat. La loi travail accrut la flexibilité aux dépens de la protection des salariés. Dans le même temps, les entreprises se virent octroyer de substantiels cadeaux fiscaux. Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le CICE, entré en vigueur en 2013 et remplacé en 2019 par la diminution pérenne des cotisations sociales employeurs, a coûté en tout plus de 100 milliards d'euros aux finances publiques. Sous Hollande, ce sont aussi plus de 5 milliards d'euros par an qui furent versés aux entreprises via le crédit impôt recherche. Un montant considérable qui représente environ les trois quarts du budget de la recherche publique, et ce, alors même que les effets de ce dispositif sur l'innovation n'ont pu être démontrés.
Il est clair que face à cette politique, la protestation a continué à bouillonner dans les rues, sur les ronds-points, dans les zones à défendre, et jusqu'à aujourd'hui où les manifestations contre la réforme des retraites se développent et concernent, au-delà des retraites elles-mêmes, finissent par concerner le travail lui-même, les conditions de travail, non seulement les salaires, mais les conditions de travail, la dignité au travail, sont des choses qui émergent violemment actuellement. Et on a vu les Nuits debout, Place de la République, les Gilets jaunes partout, mais ce mouvement, ces protestations ne sont pas manifestées qu'en France. Il faut rappeler qu'elles ont lieu partout dans le monde aussi. Et on pourrait citer la place Tahrir au Caire, la place Gezi à Istanbul, le mouvement Occupy Wall Street à New York, les indignés espagnols à Madrid, sans oublier la célèbre Greta Thunberg en Suède.
La grève pour le climat lancée par Greta Thunberg le 20 août 2018 devant le Riksdag, le Parlement suédois, du haut de ses 15 ans, elle a formulé une doctrine stratégique essentielle. 1. Les énergies fossiles doivent rester dans le sol. 2. Les grandes firmes multinationales et les dirigeants politiques sont responsables du désastre en cours. 3. Il ne s'agit pas de les convaincre, mais de les contraindre par la grève.
On voit que Greta Thunberg, avec tout le dynamisme de ses 15 ans, soutient qu'il ne faut pas compter sur la persuasion, sur la conviction, mais qu'il faut plutôt utiliser, dans ce cas-là, la contrainte. Toujours est-il que les formes classiques de mobilisation utilisées jusqu'à présent, c'est-à-dire les grèves, les manifestations de rue, les meetings, la distribution de tracts, toutes ces formes classiques semblent être devenues moins efficaces, d'autant plus que les stratégies policières de maintien de l'ordre, comme on dit, avec les brutalités afférentes, les gardes à vue, sont devenues, c'est le moins que l'on puisse dire, beaucoup plus énergiques qu'auparavant. Qu'à telle enseigne, on a entendu des gens dire, tout à fait récemment, qu'ils avaient à présent peur d'aller manifester dans la rue leur opinion. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'enjeu, le premier objectif pour ceux qui veulent que le monde change, en vue de plus de justice sociale, plus de justice fiscale également, cet enjeu, c'est que les divers mouvements sociaux qui pour l'instant agissent chacun de leur côté, passent entre des compromis en vue d'accords pour l'action. C'est là le cœur de l'idée d'Aurélie Trouvé. Tous les mouvements différents qui chacun lutte pour un objectif particulier doivent s'unir entre eux, passer des compromis, en dépit de leurs différences, de leurs divergences, des compromis en vue d'un accord pour l'action. Et c'est possible, car les braves gens de la base ne demandent qu'à s'unir. Écoutons comment Aurélie Trouvé décrit les bénévoles, les militants, les simples gens de tous ces mouvements.
Celles et ceux qui, sortant du boulot, se réunissent et préparent la prochaine mobilisation contre une réforme injuste, qui serrent les dents et se passent de jours entiers de salaire afin de faire grève pour leurs droits et ceux de tout le monde, qui consacrent une bonne partie de leur temps de retraité à tenir une permanence d'aide aux migrants, qui rejoignent une manifestation malgré la crainte des violences policières. Aux quatre coins de la France, aux quatre coins du monde, nous sommes une armada unie par cette soif de justice qui tient bon parce qu'il n'y a pas de fin de l'histoire ni de règne irrémédiable du système actuel. Dans cette armada, de nouvelles générations s'engagent. Certains s'impliquent dans le mouvement climat et contre les projets destructeurs de la nature. D'autres dans les luttes féministes ou contre les violences policières, à l'image de ces colleuses de lettres noires sur fond blanc qui ont fleuri sur les murs des dizaines de villes en France afin de dénoncer les violences sexuelles et sexistes.
Donc il y a essoufflement des formes classiques de combat et de revendication et se pose inévitablement à présent le problème de la violence. Et Aurélie Trouvé nous adresse une première mise en garde.
Il faut d'abord rappeler que la violence première est celle de l'exploitation du travail, de l'impunité des évadés fiscaux ou des agresseurs sexuels, de la répression et des bavures policières. Elle est celle invisible et quotidienne des relations sociales sous le capitalisme qui détruisent des vies à petit feu.
Cela dit, comment bloquer ou comment perturber le fonctionnement du système actuel? Donc, deux tendances s'opposent. D'une part, radicaliser les mouvements par des dégradations matérielles ou, au contraire, les rendre plus festifs, plus mélangés, plus heureux. Alors, ce qu'on constate en pratique, c'est que les deux se font à la fois. Par exemple, DAL, le droit au logement, qui occupe des locaux vides, un petit peu, en forçant un petit peu, mais les gens sont très heureux d'occuper ces locaux vides. Un autre exemple, ce sont les habitants de la vallée de la Roya qui aident les migrants qui viennent d'Italie et qui traversent les Alpes par tous les temps. Il y a aussi Greenpeace qui s'introduit dans les sites nucléaires. On peut encore citer les Apple Store, les magasins d'Apple qui sont envahis par des groupes de manifestants d'attaque, notamment pour que Apple paye ses impôts en France. On peut citer enfin la ZAD de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes qui a fini par s'installer. Donc on voit qu'il y a même actuellement de nombreuses nouvelles formes qui mêlent à la fois une violence contenue et une joyeuseté, disons, de l'action accomplie. En fait, ce qui manque, la grande difficulté, c'est l'absence d'une proposition alternative à la hauteur des espérances qui soit portée par une personnalité, elle aussi, à la hauteur de ses espérances. Ce qui est certain, c'est que les partis politiques d'une part, bien qu'ils soient désavoués, et les mouvements sociaux d'autre part, ne peuvent pas se passer l'un de l'autre, tout en gardant leur personnalité. Les premiers, c'est-à-dire les partis politiques, en tant qu'instruments de conquête et de conservation du pouvoir politique, et les seconds, c'est-à-dire les mouvements syndicaux, comme source et expression des aspirations populaires. Alors, la réponse à cette difficulté que propose Aurélie Trouvé, c'est son bloc arc-en-ciel. Elle rappelle que les victimes de l'oppression capitaliste ont des profils extrêmement variés, de classe, de genre, de race, de revenus, de situation sociale. Écoutons-la décrire cet aspect.
Face à un système capitaliste dans lequel les dominés, les opprimés vivent des réalités très différentes, comment constituer un front commun ? Comment établir cette conviction profonde que nos intérêts sont partagés face à un système capitaliste, patriarcal et raciste, de plus en plus autoritaire, qui exploite toujours plus le travail et le vivant ? Qu'est-ce qui peut rassembler un employé se mobilisant contre un futur plan de licenciement ou une réforme des retraites, un chômeur contre la casse de l'assurance chômage, un étudiant contre des politiques ineptes face au changement climatique, une féministe contre les agressions sexuelles et leur impunité, un habitant de quartier populaire contre les violences policières ? Comment des expériences sensibles et partagées, produisant une conscience commune, peuvent-elles s'établir entre ces individus de façon à ce qu'ensemble, ils pèsent suffisamment dans les rapports de force ?
Alors, sous cette infinie variété d'identités sociales, il y a une même cause, une cause identique, bon, le système capitaliste. Et ce qu'il faut souligner, enfin ce que du moins Rudy Trouvé souligne, c'est que jusqu'à présent, dans les analyses marxistes notamment, on a vu dans le capitalisme un clivage important qui était le clivage capital-travail. Alors, effectivement, ce clivage capital-travail est important, mais il n'est pas le seul clivage. De nombreuses autres personnes s'identifient selon des clivages autres, féministes, racistes, écologiques.
Il ne s'agit donc pas de lâcher le conflit capital-travail, mais pas non plus d'en faire l'unique bataille, la référence autour de laquelle penser toutes les autres luttes qui resteraient annexes ou secondaires. Il ne s'agit pas de remettre au cœur du conflit politique le clivage capital-travail, mais de l'articuler aux autres conflits, aux autres rapports de domination qui marquent le capitalisme actuel. Je refuse l'idée que la classe sociale d'appartenance, mesurée par le volume de capital économique et de capital culturel, serait le facteur déterminant autour duquel s'arriment les autres dimensions de l'identité des personnes. Non, nous avons trop besoin des mouvements féministes, antiracistes et écologistes. Or, celles et ceux qui les animent ont choisi de lutter en faveur d'un autre système à partir d'une identité qui n'est pas celle, avant tout, de la classe sociale.
Il s'agit donc à la fois de constater l'infinie variété des luttes en cours, mais il faut aussi reconnaître, et là je cite la formule utilisée par Aurélie Trouvé, il faut aussi reconnaître l'égale légitimité des luttes. Toutes les luttes sont légitimes parce que toutes ces luttes sont menées par des dominés, dominés par différentes causes, sous différentes formes, mais ce qui les unit, c'est qu'ils sont des dominés, d'autant plus que le dépassement du capitalisme n'entraîne pas automatiquement la disparition des différentes formes d'oppression. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on est dans un parti de gauche qu'à l'intérieur de ce parti disparaissent les formes d'oppression sexistes ou machistes.
L'autonomie de chaque lutte doit être respectée, car, comme l'écrit Frédéric Lordon, reconnaître l'autonomie des luttes antiracistes ou féministes, c'est ne pas se raconter que le capitalisme dépassé, ses oppressions en seraient ipso facto supprimées.
Alors, il y a là une idée essentielle que soutient Aurélie Trouvé et qui est en effet, je crois, fondamentale. Et cette idée est la suivante. On peut être à la fois, en même temps, comme dirait quelqu'un d'autre, un prolétaire révolutionnaire, un intellectuel de gauche, un artiste engagé, et en même temps, un machiste, un agresseur sexiste, un antisémite, etc. Et Les exemples dans l'actualité, y compris l'actualité brûlante actuelle, ne manquent pas. Il faut vraiment répéter ça parce que c'est important. On peut à la fois avoir des idées de gauche et des pratiques de droite. Et maintenant, un message de Dominique qui va nous présenter la petite pause musicale.
Pour ce bloc arc-en-ciel de Aurélie Trouvé, j'ai choisi de faire une pause musicale avec Tracy Chapman. En effet, on aurait pu choisir un rock bien sonore et bien bruyant, des Stones, des Clash, des Doors, des Cure, de Nirvana, de Rage Against the Machine. Mais je pense que la parole et la chanson de Tracy Chapman sont vraiment très belles. Sa voix est splendide. Donc, je vous souhaite 3 minutes en compagnie de Tracy Chapman, aussi belle que révolutionnaire. À bientôt.
Don't you know, you're talking about a revolution that sounds
impossible.
Don't you know, you're talking about a revolution that sounds
impossible.
While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployed lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know they're talking about a revolution that sounds
impossible.
Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, 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 run. Cause finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Talking about a revolution, oh, oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know they're talking about a revolution with the sounds. Starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh, oh no, talking about a revolution. Oh, oh no, talking about a revolution. Oh, oh no.
Il s'agit donc pour Aurélie Trouvé de bâtir un bloc qu'elle appelle « rouge, vert, jaune, multicolore », un bloc arc-en-ciel. Un bloc, alors je vais utiliser un mot qu'on utilise souvent à présent, un bloc d'intersectionnalité, comme on dit aujourd'hui. Exemple, par exemple, les urgences écologiques et sociales ne peuvent pas être dissociées l'une de l'autre, parce que c'est le même système qui exploite à la fois les travailleurs et qui dégradent la terre entière. Il faut revoir notre système de production et de consommation, mais pour qu'il y ait une égale dignité de chacun dans la sobriété matérielle, ce sont les plus riches qui devront revoir en priorité leur système de consommation insoutenable. Il ne s'agit pas de demander à des gens pauvres qui ont déjà du mal à terminer leur mois, de faire des efforts de sobriété en même temps que d'autres, beaucoup plus aisés, continueraient à vivre avec des revenus vraiment importants. Il s'agit donc que chacun conserve sa dignité. Et évidemment les gens qui devront faire un effort de sobriété ne se laisseront pas faire. D'où peut-être ce que pressentait Greta Thunberg en disant qu'il fallait utiliser autre chose que la conviction. Cela dit, nous devons, dans nos propres rangs de gauche, ne pas mettre la poussière sous le tapis et il faut mener des combats pour une vraie démocratie interne, pour la disparition de la domination masculine qui se marquerait par une parité homme-femme, une juste répartition des tâches intellectuelles et des tâches d'intendance, de la même façon que dans la sphère domestique, il faudrait une juste répartition des tâches de logistique, de cuisine, etc. Alors, pour revenir aux organisations de gauche, il faudrait, on en a déjà parlé, que disparaissent les comportements machistes, sexistes, les agressions sexuelles, etc. Et il faudrait tout cela pour joindre l'antiracisme, la lutte contre les discriminations et l'anticapitalisme. Tout se tient, tout est lié. Alors, comment parvenir à unir ces pôles divergents, ces forces différentes? Eh bien, il faut, dit Aurélie Trouvé, revenir à nos racines, nos valeurs. Et revenir à nos racines, c'est revenir à la radicalité de l'opposition entre la domination et l'émancipation. Il y a là deux visions du monde qui s'opposent, la vision de domination où certains s'arrogent le droit parce qu'ils sont plus forts, plus riches, plus instruits, etc., de dominer les autres, et l'émancipation où au contraire, chacun, tous et toutes, prônent la justice, l'égalité, l'ouverture aux autres, le débat collectif. Et la justice, l'égalité, l'ouverture aux autres, le débat collectif, tout cela forme un système qui est opposé au système actuel. Alors, comment s'approcher de ce nouveau système en pratique? Eh bien, il faut lutter pour sauvegarder les pouvoirs publics, même si, à l'intérieur des pouvoirs publics, une bureaucratie peut se développer et qui poursuit ses propres intérêts. C'est un petit peu inévitable dans l'évolution des groupes humains. Il faut également prôner un enseignement qui incite les élèves, les étudiants, à penser par eux-mêmes, un enseignement qui ne soit pas manipulateur. Et penser par soi-même, c'est, les latinistes disaient déjà, sapere aude, donc c'est pas nouveau. Il faut également passer des accords avec les organisations religieuses, à condition qu'elles se battent, comme nous, pour une certaine justice. Alors voilà, ça fait un programme vraiment, vraiment important. Et qu'est-ce que l'on cherche à atteindre à travers tout ça? Bien, on cherche à atteindre trois buts importants. Il faut d'abord avoir une planète vivable, une planète dans laquelle on puisse vivre. Alors souvent, on oppose, on dira, la transition écologique, ça conduit à la destruction d'emplois et à la chute de la croissance économique. Bon, il faudrait déjà se demander si la croissance en elle-même est un but. Enfin, admettons. Aurélie Trouvé répond que dans notre système, le travail et l'emploi n'existent que s'ils sont profitables, et attention, profitables aux entrepreneurs. Or, les besoins d'une planète vivable sont couverts par des emplois non pas profitables, mais par des emplois utiles, c'est-à-dire profitables à tous, et non pas qu'à quelques-uns. Et donc, ces emplois profitables à tous, utiles, ne peuvent être financés que par la société dans son ensemble, par des services publics. Les exemples ne manquent pas, l'enseignement, la santé publique, les transports en commun, la rénovation thermique des logements, etc. Ce sont des exemples parmi tant d'autres. Et toutes ces tâches ne peuvent rapporter aucun profit personnel à des entrepreneurs, à des managers ou à des actionnaires privés qui n'ont aucun intérêt personnel à les développer. Laissons Aurélie Trouvé l'expliquer avec ses propres mots.
Dans les sociétés capitalistes, le travail est une marchandise. Il a un prix, le salaire versé aux salariés, et il s'échange sur un marché dédié, le marché du travail. Le travail existe si et seulement s'il profite aux patrons ou aux actionnaires des entreprises qui l'offrent, ou en d'autres termes, ont le pouvoir de le créer et de le détruire. S'il ne génère pas de profit, il se raréfie, comme lors des périodes de chômage de masse. La mesure du travail, en somme, est le profit et non l'utilité. Nous devons démarchandiser le travail et faire en sorte que le critère de ce qui est utile à la collectivité remplace celui du profit, en particulier dans le domaine social et celui de l'environnement. Mais comment définir l'utilité ? Qu'est-ce qu'une activité utile ? Depuis les origines de la pensée politique moderne, philosophes et économistes ont cherché à mesurer objectivement l'utilité, en vain. L'utilité, c'est ce qui est considéré comme utile à un moment donné de l'évolution d'une société. Ce qui est utile dans nos sociétés, en ce début du XXIe siècle, ce n'est pas le même type d'activité qu'au XIXe siècle, lors de la révolution industrielle ou encore au Moyen-Âge. L'utilité est donc essentiellement relative. Aujourd'hui, elle est indissociable de l'enjeu environnemental. Si la préservation de la biodiversité, par exemple, est un défi vital pour l'humanité, une condition de sa survie sur Terre, l'utilité, et donc le travail qui la produit, doivent être déterminés en fonction de cet objectif. De même, si les emplois dans le domaine du soin manquent cruellement, alors que les besoins en la matière ne cessent d'augmenter, avec notamment le vieillissement des populations dans les pays du Nord, alors l'activité utile est celle qui satisfait ce besoin. On comprend bien que si le profit demeure la seule boussole de la création et de la destruction de l'emploi, comme à l'heure actuelle, il n'existe aucune chance que ces besoins soient satisfaits, tout simplement parce qu'ils ne sont pas profitables.
Alors, il peut arriver que pendant cette phase de transition, on puisse observer localement et provisoirement une perte d'emploi. Que faire à ce moment-là ? Aurélie Trouvé préconise un revenu équivalent, ce qu'elle appelle un revenu équivalent, et un partage du temps de travail.
Et si sur certains sites, cette reconversion productive ne permet pas de maintenir une certaine quantité de travail, deux principes pourraient prévaloir. Le premier implique que tous les salariés qui perdent leur ancien emploi dans ces secteurs polluants se voient garantir un revenu au moins équivalent et une formation professionnelle avant de retrouver un travail à niveau de qualification similaire. Le second repose sur le partage du temps de travail et part d'une logique implacable. Puisqu'il manque du travail, 6,5 millions de personnes sont inscrites à Pôle emploi contre quelque 600 000 offres, soit une offre pour 10 chômeurs, il faut diminuer le temps de travail moyen. Cela permettrait non seulement de dégager des emplois supplémentaires, mais aussi de réduire les coûts économiques, sociaux et psychologiques considérables du chômage.
Alors tout cela concerne implicitement la France, enfin, ou chaque pays individuellement, mais en ce qui concerne le climat, il est clair que des régulations internationales sont bien entendu indispensables. Alors, tout cela concernait donc le premier objectif, une planète vivable. Il y a un deuxième objectif, celui de la relocalisation industrielle. Alors, pendant longtemps, s'ouvrir au commerce international, prenez le libre-échange, a paru être source de richesse, source de diminution de la pauvreté, etc. Et puis est venue la pandémie du Covid. On a constaté qu'on n'avait pas de masque, que les molécules essentielles étaient produites à l'étranger et qu'on dépendait beaucoup, beaucoup de cet étranger. Et s'est développé le discours complètement opposé, les mêmes qui prenaient le libre-échange, le libéralisme, l'ouverture, ont développé un discours opposé sur le thème de rebâtir la souveraineté nationale. Alors, il est vrai que la relocalisation des industries est indispensable. Pour ne plus consommer des produits indignes, c'est-à-dire par exemple des produits fabriqués dans des conditions proches de l'esclavage dans certains pays, il faut augmenter la proportion d'énergie renouvelable en France et il faut aller vers plus d'efficacité, de sobriété, en coopération avec les autres pays. C'est ça la relocalisation industrielle, c'est une relocalisation qui se fait en coopération avec d'autres pays pour que chaque pays puisse conserver sa part d'autonomie et sa part de dignité. Il y a un troisième objectif qui est la socialisation démocratique de ce qui permet de produire des changements. Il s'agit de la propriété publique. Public, ça veut dire par l'État ou les collectivités locales, et de la propriété communautaire, c'est-à-dire la propriété par une communauté des biens communs. Alors, ce qui est en cause, c'est ce qui permet d'orienter la production en nature et en quantité et en qualité, orienter la production par le biais de son financement. Son financement est effectué par les banques et la finance. Et dans ce cas-là, est prôné le développement des services publics de soins, d'éducation, de culture, de transport. Il faut relégitimer l'impôt, parce que l'impôt, ça nourrit les ressources publiques, ça nourrit les financements qui permettent d'avoir une activité publique, et c'est complètement contraire aux baisses d'impôts qui laissent l'argent là où il est et qui prennent l'argent chez les pauvres. Donc il faut aussi lutter contre l'évasion fiscale et il faut peut-être établir ce pourquoi ATTAC a été créé, c'est-à-dire une taxe sur les transactions financières. Il faudrait aussi augmenter la démocratie directe. Parce que la démocratie représentative telle qu'on la connaît actuellement est loin d'être satisfaisante, puisqu'on constate que l'élite, entre guillemets, est de plus en plus loin de la vraie vie des gens. Voilà ce que dit ce livre. Pour ceux que ça intéresse, il y a sur le site Blast plusieurs interviews où Aurélie Trouvé revient en détail sur chacun de ces points. Nous allons à présent laisser la conclusion de son livre à Aurélie Trouvé elle-même.
Plus de 66% d'abstention aux élections régionales et départementales de juin 2021. Record absolu. Les jeunes, en particulier, ont boudé les urnes. C'est ça le grand résultat de ces élections. Si la gauche écologique veut gagner à l'avenir avec une base forte, elle doit urgemment s'interroger sur un réenchantement de la politique. Comment faire afin que ceux qui pensent à gauche votent à gauche, afin que ceux qui veulent agir en faveur d'une transformation écologique, sociale et démocratique s'engagent en politique? Tout au long de ces pages, j'ai voulu montrer que la gauche écologique n'est pas seulement celle des partis. Elle est celle des luttes sociales et écologiques, multiples et créatrices. Dès lors, notre défi stratégique est le suivant. Que des luttes éparses autour d'enjeux distincts s'articulent en sorte de se renforcer mutuellement, créant un rapport de force durable avec les tenants de l'ordre dominant. Et que la convergence des luttes ainsi obtenues bouleverse les élections et les institutions, les démocratise et les met au service de la transition écologique et sociale. De quelle façon s'y prendre ? Par une stratégie de rupture, de confrontation brutale avec l'ordre dominant tel que l'a dessiné le mouvement des Gilets jaunes ? Par une stratégie interstitielle de fissures à l'intérieur du système, comme le font nombre d'alternatives locales et concrètes, de contre-modèles coopératifs, culturels, intellectuels ? Par une stratégie symbiotique, passant par la participation critique aux institutions ? Nul ne le sait. Et c'est bien pour cela que toutes ces stratégies doivent être poursuivies en même temps, sans exclusive, avec radicalité et inclusion.
Chers auditeurs et auditrices de Radio Galère et de l'émission Livres et Amis, Nous vous avons présenté aujourd'hui un livre d'Aurélie Trouvé, T-R-O-U-V-E accent aigu, intitulé « Le bloc arc-en-ciel » et sous-titré « Pour une stratégie politique radicale et inclusive ». Ce livre est édité aux éditions de La Découverte. Jacques et
Françoise
vous disent au revoir.
A song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika.